Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, nous allons découvrir un moment peu connu de la Belle Époque. En 1906, un gigantesque mouvement social face à un homme, le premier flic de France, Georges Clemenceau.
Au cœur de l'histoire.
Christophe Castaner a défendu devant l'Assemblée la proposition de loi anti-casseurs comme un texte de tolérance zéro contre les violences.
Chaque semaine, une petite minorité de brutes menace, vise, attaque. Ils sévissent à Paris, ils sévissent partout en France, n'écoutant que leur soif de chaos. Et je parle bien de brutes, pas de manifestants. Ce n'est pas, et je le dis fermement, une loi anti-gilets jaunes. C'est une loi de protection, c'est une loi de liberté. Et ne laissons pas quelques brutes priver les citoyens de la liberté fondamentale de manifester.
Dans l'actualité, la loi anti-casseurs et les mouvements sociaux se répondent. Ce n'est pas la première fois qu'en France, un vaste mouvement de grève met en péril et en menace le pouvoir. En 1906 déjà, face à un mouvement social de grande ampleur, Georges Clemenceau va adopter des mesures énergiques et prendre des décisions qui vont faire douter de l'existence d'une république démocratique, la troisième. Pour connaître Clemenceau, le briseur de grève, eh bien suivez-moi au cœur de l'histoire. Ce n'était pas encore tout à fait le printemps, mais presque. Le 14 mars 1906, Ferdinand Sarrien vient tout juste d'accéder à la fonction de président du Conseil, une fonction encore naissante. À Paris, dans son bureau, il reçoit un à un les ministrables, les candidats, chacun proposant ou demandant le poste qui lui conviendrait. En face de lui, cet après-midi-là, se trouve un homme moustachu, à la calvitie généreuse, réputé pour sa franchise, Georges Clemenceau. Le président lui propose de prendre l'apéritif et lui demande « Que prenez-vous ?» Sans détour, avec un sourire, Clemenceau répond « L'intérieur ». Le trait d'humour à porter, Clemenceau va devenir ministre de l'Intérieur. Quelques mois plus tard, à cause de sa fermeté et de son autorité, on l'appellera le tigre. Il s'apprête à vivre les trois années les plus difficiles de sa carrière politique. Quatre jours plus tôt, le 10 mars 1906, nous sommes à Courrières. C'est à quelques kilomètres de Lens, dans ce bassin minier du Pas-de-Calais. La mine appartient à la compagnie de Courrières. C'est un domaine gigantesque. Elle fournit à elle seule 7% de la production nationale de charbon. C'est énorme pour l'époque. Il est 6 heures. Le soleil n'est pas encore levé. Comme chaque matin, 2000 mineurs empruntent les ascenseurs pour descendre dans les galeries. Ils s'entassent à 5 dans ces petits chariots appelés des berlines pour accéder au fond de la mine située à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. En bas, dans les galeries obscures, ils se dirigent à la lueur de lampes à huile vers ce qu'on appelle les fosses, c'est-à-dire l'endroit précis d'où on extrait le charbon. Ils arrivent alors dans un environnement humide, hostile, l'air est étouffant. Il faut s'habituer à travailler dans une température de presque 50 degrés. Pour se protéger contre les dégagements de gaz, chacun porte des mouchoirs humides autour du nez. 6h30. Une impressionnante explosion retentit. Les fosses 2, 3 et 4 de la mine de Courrières prennent vite le feu. De fines particules de poussière de carbone présentes dans l'air s'embrasent. L'incendie se propage à très grande vitesse sur les 100 km de galeries en moins de 2 minutes. Certaines galeries s'effondrent. Des débris de bois et de chevaux sont projetés comme des boulets de canon, remontant les puits jusqu'à une hauteur de 10 mètres et retombent au fond de la mine. Les corps des mineurs explosent sous la pression d'explosion ou sont brûlés vifs, écrasés par les décombres. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle un coup de grisou. Le grisou, c'est ce gaz invisible et inodore qui se dégage des couches de charbon lorsqu'on l'exploite. Si le grisou entre en contact avec l'air, il devient hautement explosif. Au coup de grisou, il faut ajouter le rôle de la poussière de charbon. Celle-ci a encore accentué l'accident. À la surface, à l'entrée de la mine, on a entendu le bruit. Déjà, les villageois accourent. Des centaines de mineurs se présentent devant l'entrée pour essayer d'aider, pour essayer de porter secours. Gustave Léon, ingénieur en chef des mines, est responsable du sauvetage avec Frédéric Delafont, ingénieur général. Ils hésitent sur la conduite à tenir. Faut-il dégager la mine immédiatement, envoyer des secours ou bien attendre? Leur décision ne va pas tarder. Sous la pression de 10 000 personnes accourues des environs, il décide qu'il va falloir engager des opérations de secours. Mais pour l'instant, il y a encore une fumée noire, très sombre, qui se dégage de l'entrée principale. Comment faire pour y accéder? Dès le lendemain, le 11 mars 1906, quelques survivants sortent de la mine. Ils parviennent à dire aux journalistes locaux ainsi qu'à un reporter du Figaro ce à quoi ils ont échappé.
Un mineur est scalpé, d'autres sont brûlés, plusieurs sont presque nus. On assiste à des scènes déchirantes et épouvantables. De toutes parts dans le pays, les femmes éplorées accourent pour prendre des nouvelles de leur mari. L'émotion est indescriptible, les femmes et les enfants pleurent et menacent de forcer les barrages de gendarmes.
Malgré les efforts et les tentatives courageuses, Delafond et Léon doivent abandonner les recherches de secours après 3 jours. Les familles sont scandalisées. Dans le monde socialiste, une plainte s'élève. Le 30 mars, soit 20 jours après l'explosion, 13 rescapés réussissent à retrouver le puits par leurs propres moyens après avoir erré dans le noir total sur des kilomètres. Un 14e est retrouvé 4 jours plus tard. C'est bien la preuve que sauver des vies est encore possible. Ils ont survécu 20 jours. En mangeant les briquets, vous savez, ces casse-croûtes que les mineurs portent sur leur corps. Ils ont volé ceux des morts. Ils ont aussi mangé des cadavres de chevaux. On murmure que pour survivre, ils ont bu leur propre urine. Pour les gueules noires, c'est l'heure du deuil. 50 000 mineurs du bassin minier multiplient les appels à la grève et protestent. Ils trouvent que la gestion par la mine a été scandaleuse. Comme s'ils étaient de la chair à grisou, comme on dit de la chair à canon. La colère des mineurs et de leurs familles impressionne tout le monde. Le 13 mars 1906 ont lieu les principales obsèques. Là, un homme, moustachu, prend la parole. C'est le député-maire de Lens, Émile Bally, surnommé le mineur indomptable. Son discours est un véritable réquisitoire, un appel à la justice pour tous ces mineurs morts.
Je le jure, sur cette tombe qui nous glace d'horreur, sur ces cercueils que des mains tremblantes viennent de retirer d'une fosse pour les descendre dans une autre, justice sera rendue aux morts, justice sera rendue aux vivants, justice sera rendue à l'humanité.
Quelques semaines après la catastrophe, on peut enfin tirer le bilan définitif. Il est lourd. 1099 mineurs ont trouvé la mort. Les 50 000 autres réclament tous les jours, la grève et la justice. C'est dans ce contexte qu'un autre moustachu, Georges Clémenceau, arrive aux responsabilités. Clémenceau a 65 ans. C'est une des figures éminentes du Parti radical. Il était même radical socialiste dans les années 1880. Longtemps, il a joué le rôle de tombeur des ministères, faisant trembler les plus ardents. C'est un orateur talentueux. Il a été discrédité un temps à cause de l'affaire des chèques du canal de Panama. Et puis, à la faveur de l'affaire Dreyfus, il est revenu en politique. Il a réussi à se faire élire au Sénat, où il siège. Et le voici, aujourd'hui, ce tombeur de ministère, arrivé à son tour au ministère de l'Intérieur, un ministère qui n'est pas de tout repos. Quand il arrive au gouvernement, le précédent président du Conseil, Maurice Rouvier, a été mis en difficulté à cause de l'affaire dite des inventaires. Vous vous souvenez, après la séparation de l'Église et de l'État, l'État a voulu savoir ce qu'il possédait réellement dans ses églises et donc en faire l'inventaire. Cela a heurté profondément les catholiques qui ont fait des grèves, des manifestations pour empêcher les pouvoirs publics de se livrer à cette mesure qu'ils jugeaient sacrilège. Clémenceau prend une mesure d'apaisement. On suspend provisoirement l'inventaire et on sent que dans ce provisoirement, on s'installe dans la durée. Mais son autre défi est ailleurs. Il y a de nouvelles forces politiques qui ont émergé et qui entendent faire changer la République, la rendre plus sociale. Celle vers laquelle tout le monde tourne les yeux, c'est la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, le tout nouveau parti socialiste créé en 1905 après son congrès dans la salle du Globe à Paris. Et puis, il y a aussi cette CGT, cette Confédération Générale du Travail, qui en 1906 est en pleine effervescence et qui décide d'adopter une nouvelle doctrine. Cette doctrine, c'est celle de l'anarcho-syndicalisme et de la grève générale. C'est simple. Et si, à la faveur d'une grève massive, on réussissait à faire tomber la République et à installer un régime socialiste? Voilà la nouvelle doctrine des dirigeants de la CGT au moment où M. Clémenceau s'apprête à prendre les rênes du ministère de l'Intérieur. Et de fait, dès le 17 mars, il est face à un piquet de grève dans la région de Lens. C'est la catastrophe de Courrières qui incite à la manifestation, qui incite à bloquer les mines de manière à obtenir des compensations pour les familles des blessés et à améliorer les conditions de sécurité pour les mineurs. Comment essayer de raisonner ces travailleurs ? Clémenceau va tenter une expérience. Le 17 mars, peu avant 13 heures, il se rend seul à la maison du peuple de Lens. Il n'y a pas d'escorte. Face à lui, sont regroupés environ 2000 grévistes qui sont tout étonnés de voir cet homme politique venir s'adresser directement à eux. Face à Clémenceau, dans la salle, certains crient « Vive la grève !» Clémenceau reste calme, il prend la parole et leur adresse le discours qui suit d'un ton apaisé.
Il ne m'appartient pas de discuter vos revendications. La grève constitue pour vous un droit absolu qui ne saurait vous être contesté. Si parmi vous se trouvent des malfaiteurs qui veulent détruire les puits, je dois les en empêcher et faire garder les mines par les troupes, car les gendarmes seraient insuffisants. Les soldats viendront la nuit et seront cantonnés. Ils n'auront pas de contact avec vous. Ce que je demande, c'est que lorsque le travail reprendra partiellement, vous respectiez la liberté du travail, comme je fais respecter votre droit de grève.
Reconnaître le droit de grève, trouver un aménagement avec les troupes qui protègent les puits, et en même temps, permettre la liberté du travail. Pour la droite, le ministre de l'Intérieur est en train de se rendre complice des grévistes qui attaquent les forces de l'ordre. Pour la gauche, il fait preuve d'ouverture d'esprit. Mais cela suffira-t-il à arrêter une grève ? Dans les jours qui suivent, les ouvriers excédés n'entendent pas son message. Alors que certains jaunes, les renards comme on les appelle dans le Nord, décident de reprendre le travail, les mineurs pillent leurs maisons, les attaquent et les frappent. Ils vont aussi saccager l'hôtel de ville de Lens. Le lendemain, au Fort Gennebon, 1800 ouvriers ont même cessé le travail. Ils attendront 4 mois avant de reprendre l'ouvrage. Dans ce bassin minier, dans ces régions ouvrières, le climat est à la limite de l'insurrection. Clémenceau est inquiet et se demande : doit-il donner le droit aux troupes de tirer sur les manifestants pour les disperser plus rapidement ? Clémenceau en reste là de ses réflexions car déjà, une autre arène l'attend. Il doit se livrer à une défense de sa politique à la Chambre. En tant que ministre de l'Intérieur, il dira tout simplement « Je suis le premier flic de France ». Et déjà, certains de ses amis, de ses proches, le surnomment le tigre. On loue sa poigne, son énergie. Mais évidemment, la gauche socialiste apprécie mal ses prises de position face au mouvement ouvrier. Ce jour-là, face à lui, parmi les socialistes, se dresse Jean Jaurès. Clémenceau commence à critiquer l'attitude des socialistes. Ce sont eux qui créent le désordre.
Vous êtes derrière une barricade, moi je suis devant. Votre moyen d'action, c'est le désordre. Mon devoir, c'est de faire de l'ordre. Mon rôle est de contrarier vos efforts. Le mieux pour chacun de vous est d'en prendre son parti.
Jaurès a reçu le coup de pied, mais évidemment, il va répondre. Le voici.
Il y a entre les classes d'autres arbitrages que la force, parce que la société elle-même est l'expression de la force. Entre le capital qui prétend au plus haut dividende et le travail qui s'efforce vers un plus haut salaire, il y a une guerre essentielle et permanente. Le combat continue, incessant, silencieux, dans l'atelier comme hors de l'atelier.
Clémenceau se sent piqué, mais tout de même, va-t-il céder du terrain face à Jean Jaurès ? Va-t-il lui laisser le monopole de la classe ouvrière ?
Vous n'êtes pas le socialisme à vous seul, monsieur Jaurès. Vous n'êtes pas le bon Dieu.
Et Jaurès de répondre.
Et vous, vous n'êtes même pas le diable.
Et Clémenceau de conclure.
Et qu'en savez-vous ?
Facétie, sens de l'humour, mais en réalité, réflexion profonde sur l'action policière menée par Clémenceau. Dès le lendemain, il prépare le 1er mai 1906. Le but est d'éviter qu'il y ait une grève générale qui menace le pouvoir. C'est ainsi qu'il ordonne des arrestations préventives. Victor Griffull, le leader de la CGT, est arrêté. Il est accusé de complicité et de provocation aux crimes de pillage, de meurtre et d'incendie. Et avec lui, d'autres dirigeants du syndicat sont arrêtés. C'est comme s'il avait décapité l'état-major de la CGT. L'année 1906 est donc plutôt en sa faveur. Il a réussi à bloquer le mouvement ouvrier et à calmer l'agitation des conservateurs catholiques. Ces derniers, d'ailleurs, sont désormais plus inquiets que soucieux de la présence de l'État. Mais tout va bientôt rebondir sur un autre terrain. Mai 1907. Nous sommes dans le sud de la France, dans le Languedoc. La production a été énorme cette année-là. Elle est montée jusqu'à 21 millions d'hectolitres. Cette surproduction entraîne une baisse colossale des prix. Les agriculteurs sont au bord de la ruine. Les vignerons de l'Aude, notamment, commencent à se révolter, à appeler l'État à l'aide. Le 12 mai 1907, leur leader, Marcelin Albert, avertit le gouvernement qu'il faut absolument une aide avant le 10 juin. Sinon, ce sera la grève de l'impôt. Les paysans ne paieront plus. Le 9 juin, pas moins de 600 000 manifestants ont convergé vers Montpellier. C'est du jamais vu dans le sud de la France. Une grève d'une ampleur énorme. Et Béziers, Perpignan, Carcassonne, Nîmes, partout. Marcelin Albert lève les foules. Même les femmes présentent des bébés pour qu'ils les touchent. On le surnomme le sauveur, l'apôtre, le rédempteur. Clémenceau refuse de trembler devant cette onction populaire. Il mobilise 22 régiments d'infanterie et 12 régiments de cavalerie qui doivent occuper le Midi et maintenir l'ordre. L'armée arrive à Narbonne les 19 et 20 juin. Alors que des manifestants se réunissent, les soldats arment leurs fusils, tirent, 6 manifestants sont tués. Mais bientôt, l'un des régiments envoyés à Agde pour réprimer les manifestants refuse d'obéir à ses officiers. C'est le 17e régiment d'infanterie. Pourquoi ? Pourquoi ce régiment refuse-t-il de tirer sur des paysans ? Parce que la plupart des hommes sont des soldats issus de ce pays. Et ils fraternisent avec ces vignerons dont ils connaissent la vie difficile pour l'avoir eux-mêmes vécu. C'est un changement complet de scénario. Clémenceau n'avait pas prévu ça. Le mouvement ouvrier et paysan en tirera une chanson. Rappelez-vous, salut. Salut à vous, braves soldats du 17e. Mais Clémenceau ne renonce pas. Il va essayer une nouvelle stratégie, celle de la désinformation et de la diffamation. Il convoque des journalistes et leur glisse que Marcelin Albert ne serait pas celui qu'on croit. Il serait vendu à des intérêts étrangers, à des intérêts financiers. Et pire, l'homme serait dénué de toute raison, de toute intelligence. Et les journalistes, pour certains en tout cas, vont le suivre. Ils vont mener une campagne de presse si forte que les propres partisans de Marcelin Albert finiront par le lâcher en le déclarant presque traître à leur cause. La stratégie du discrédit a fonctionné, mais évidemment, Clémenceau a aussi su jouer de la carotte. Il a permis une surtaxe sur le sucre de manière à ce que les vignerons du Languedoc puissent négocier leur vin dans de meilleures conditions. En somme, il a donné raison aux manifestants. L'affaire ne s'arrête pas là. Comme si chaque année de son ministère devait avoir sa propre crise, les événements vont rebondir un an plus tard, au mois de mai 1908. Cette fois-ci, encore un nouveau terrain. Ni le bassin minier, ni les paysans du sud de la France, mais les banlieusards, ceux de Draveil, de Villeneuve-Saint-Georges. Ces deux agglomérations, à 25 km au sud de la capitale, regroupent des ouvriers qui travaillent dans les sablières ou qui travaillent encore comme carriers à découper des pierres. Ce sont parfois des immigrés venus d'Italie qui travaillent fort, 12 heures par jour et généralement les pieds dans l'eau. Ils manient la pelle et la pioche. Une grande partie d'entre eux a adhéré à la CGT, qui a été fondée comme section en janvier 1908. Et le 2 mai, toujours fidèles à leur stratégie de la grève générale, les ouvriers ont déclenché un nouveau conflit sur les horaires et les conditions de travail. Le patronat ne veut rien savoir. Pour briser la grève, il fait accompagner une partie de la production par des policiers et des gendarmes nommés par Clémenceau. Le 2 juin 1908, un des convois de sable, accompagné par deux gendarmes, est attaqué par 200 grévistes. Dans l'après-midi, l'un de ces gendarmes blessés croit apercevoir un de ses assaillants entrant dans la salle de réunion des grévistes. la salle ranque. Si bien que, le jour même, à Vigneux, dans l'actuelle Essonne, 15 gendarmes se dirigent vers la salle. Il y a là plusieurs dizaines, plusieurs centaines de grévistes rassemblés. Les gendarmes n'hésitent pas. Ils sortent leurs armes et ils ouvrent le feu. C'est un terrible bain de sang. Après la fusillade, on compte plusieurs tués. L'un blessé au cœur, l'autre touché à la tête. Il n'avait que 17 ans. Le jour même, la CGT fait imprimer une affiche qui dit simplement « Gouvernement d'assassins ». Le 30 juillet, quelques 10 000 ouvriers se sont donné rendez-vous à Villeneuve-Saint-Georges. Certains sont venus des alentours, d'autres sont venus de Paris pour prêter main forte. On commence à dresser des barricades sur la rue de Paris, l'artère principale, celle qui va vers la capitale. Les travailleurs, pour certains, ont pris des armes. Ils font face aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, je vous rappelle, à cette époque-là, ce n'est pas une police parfaitement organisée. Ce sont souvent des militaires. Et cette fois, c'est un régiment de dragons que l'on a envoyé, c'est-à-dire la cavalerie lourde. Les dragons attaquent. 400 manifestants subissent le choc de cet affrontement. 4 hommes seront tués et plusieurs centaines seront blessés. Des arrestations sont encore décidées pour frapper l'état-major de la CGT. Pas moins de 31 dirigeants sont mis en prison. Clémenceau décrit sa stratégie à la Chambre.
Il faut en finir, frapper à la tête. La situation à Draveil et Vigneux ne peut plus durer. Si nous ne sommes pas extrêmement fermes, le mouvement risque de s'étendre et dégénérer en grève générale. Le comité confédéral de la CGT veut ma perte, il faut donc le décapiter avant qu'il ne puisse agir. Les frontières de la légalité sont franchies depuis longtemps par les chefs syndicaux.
Ces coups de filet ont déstabilisé la direction de la CGT. D'une certaine manière, Clémenceau oblige les syndicalistes à modifier leur comportement. Face à une répression sévère, qui débouche sur des gains relativement faibles, ils vont préférer désormais essayer des petits coups de force pour obtenir des gains pour leurs ouvriers. C'est donc une victoire pour le tigre. Mais s'il a obtenu cette victoire, c'est peut-être parce qu'il a su utiliser des moyens déloyaux. L'homme qui a été son outil s'appelle Lucien Métivier. Il est relativement petit, maigre, mais plein d'énergie, intrépide, avec cette volubilité qui le rend facilement sympathique aux gens qui l'approchent. Dès 1906, il a été connu dans les milieux syndicalistes et chacun le prend pour un anarchiste. Mais Métivier a reçu la visite d'un agent de la Sûreté Générale, un certain Perrette, qui, sans tarder, lui a proposé de rémunérer ses interventions et ses informations. En somme, Métivier est devenu un informateur de police. Le 20 mai 1908, il fut même reçu personnellement par Clémenceau, qui l'accepta à son service en lui donnant un pseudonyme, celui qui garde la porte étroite, Luc. Peu après, bien qu'il ne soit aucunement mandaté par la CGT, Métivier est devenu omniprésent dans les grèves. Il a poussé les carriers de Draveil et de Vigneux à se radicaliser. Il a suscité, évidemment, la sympathie de la base des grévistes. Et puis, il a été arrêté, même, par la police, pour provocation de militaires à la désobéissance. Clémenceau s'est même payé le luxe de le désigner comme un dangereux anarchiste traître à la nation. Mais on a découvert, un peu tard, que Métivier était un agent provocateur. Son rôle avait été convenu avec le tigre. Il s'agissait simplement de faire déborder les ouvriers de manière à permettre une répression rapide et sans tâche. C'est ainsi que Clémenceau se fait désormais affubler dans les milieux de gauche d'un nouveau surnom. On l'appelle tout simplement l'empereur des mouchards. Alors évidemment, toutes les faillites des grèves ne reposent pas sur les épaules du malheureux Métivier, mais tout de même, cela montre que Clémenceau n'était pas seulement l'homme d'ordre, il était aussi celui qui savait provoquer le désordre pour mieux en jouir, comme ministre de l'Intérieur. L'art de ministre de l'Intérieur est donc un art impressionniste. Il suppose de savoir donner ici des coups de pinceau pour dessiner une trajectoire. Et là, quelques coups de griffe pour marquer la toile et signer de son empreinte une foule qui vous était hostile. Clémenceau a parfaitement su maîtriser cet art et a construit une œuvre qui l'a conduit aussi à gagner la Première Guerre mondiale. Mais n'est pas Clémenceau qui veut. Et savoir jouer des émotions dans la répression est un art particulièrement difficile. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Christophe Daviau.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.